13h, Dessus de Table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de Table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Une émission cuisinée par Manuel Mariani. Comment ça va, Manu?
Ça va et vous?
Très bien. J'aimerais avoir des explications sur des photos de vous qui circulent sur Internet.
Qu'est-ce qui se passe?
Sur les réseaux sociaux avec José Garcia.
Ah, bah oui, absolument. On a fait... On a fait une petite interview avec José Garcia pour un magazine.
Enfin, vous avez fait une interview, ça va l'air bien tard, votre interview, Manu, je ne veux pas dire, mais...
Il avait ramené quelques caisses de vin rosé, puisqu'il a lancé son vin qui s'appelle le Rosé Garcia.
Non.
Mais si.
Ah ouais, si, et donc je vous connais, professionnel comme vous êtes, vous l'avez goûté.
Je ne bois pas une goutte en ce moment.
C'est vrai?
Et je suis en plein sevrage. Et
juste regarder passer
les gouttes. Je suis en plein sevrage médicamenteux, comme vous le savez, et donc j'évite. Voilà,
vous avez arrêté la drogue, l'alcool.
Oui, j'ai arrêté la morphine légale.
Bon. Donc c'était donc vous avec José Garcia?
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, je ne sais pas qui avait lancé son vin.
Et des mariachis.
Ah oui, voilà. Donc à qui vous avez volé votre éventail de cette semaine?
Non, il est chinois, l'éventail.
Bon, vous avez insisté, Manu, pour qu'on parle des boulettes. Alors, je me demande pourquoi on parle de boulettes, là, comme ça, en plein mois de juin. C'est
pas écoutez, la saison. Vous trouvez peut-être pas ça très actuel, Philippe, les boulettes, mais vous pouviez ironiser, c'est très, très actuel, la boulette. C'est même intemporel, je dirais. Ça a toujours été tendance, d'ailleurs, et bon, je vous le concède, la boulette, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a jamais cessé d'exister dans les cuisines du monde entier, mais ça revient en force. Et puis même depuis quelques années, on peut constater une succession d'ouvertures de restaurants qui sont 100% dédiés à la boulette, Philippe.
Mmh. Et la boulette, c'est votre passion, sans dévoiler un secret, Manu?
Oui, absolument. Absolument.
Vous aviez un concept?
Oui, de restaurant, je l'ai toujours d'ailleurs. Il est toujours dans le même tiroir.
C'est vrai, mais ça va cartonner votre histoire de boulette.
Bah, écoutez, il faut que je trouve la personne. Après, j'avais lancé ça pour une personne un peu connue, qu'on ne citera pas, mais qui finalement a eu quelques déboires et qui n'a pas pu se lancer. Donc j'ai créé un concept de restaurant à boulettes, deux boulettes,
voilà,
totalement nouveau.
Et puis la boulette, ça rassemble tout le monde finalement, au moins on est tranquille.
La boulette, il y a même quelque chose de sociétal, parce que la boulette, c'est ce qu'on va cuisiner avec les restes en période de disette, en période de récession économique, mais il y a aussi un côté comme fort food, la cuisine de la mama, qui cuisine des bonnes boulettes, hein, qui n'a jamais... saliver sur les coquillettes et boulettes sauce tomate de sa maman ou de sa grand-mère, etc. Et puis en plus, la boulette, c'est quand même universel. C'est le lien entre toutes les personnes du monde. Parce que je vous mets au défi de me citer un pays qui n'a pas de boulette dans sa gastronomie, Philippe.
Je vais chercher, je vous dirai ça avant la fin de...
Ah, moi, j'ai fait le boulot. 127 pays, j'ai fait. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Et donc aucun?
Aucun. Dans tous les pays, on trouve des boulettes.
Hmm. Alors, elles ne sont pas toutes à la viande. Hein.
Ah non, elles ne sont pas toutes à la viande. Il y a des boulettes de légumes, il y a des boulettes de poisson, il y a des boulettes de viande. Il y a des boulettes aussi qui peuvent être de farine, de légumineuses. Enfin, voilà.
Alors, on a un invité aujourd'hui, Manu.
Eh oui, absolument. On a un invité qui est passionné de la boulette, hein, puisque il vient de publier « Autour du monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes » aux éditions Flammarion. C'est Jean-Noël Escoffier. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas du tout dans la boulette à la base, vous êtes dans le digital, vous, à la base.
Oui, tout à fait, oui.
Mais à Lyon.
Mais à Lyon, ville de la gastronomie.
Ville de la gastronomie. Alors, est-ce qu'il y a une spécialité de boulette à Lyon?
Ben, il y a la quenelle qui peut être assimilée dans un certain sens à des boulettes.
Avec une sauce que tu as.
Exactement. Hein? Il y a des boulettes qui peuvent être un peu au sud, dans la Drôme et l'Ardèche, puisqu'il y a la Cayette. Voilà. Mais ce n'est pas effectivement une ville de boulettes. Mais la France, en général, n'est pas non plus un pays de boulettes par rapport à d'autres pays européens, voire des pays...
Oui, c'est vrai, c'est vrai que selon les pays, il y a plus ou moins de boulettes, mais il y en a partout.
Oui.
Il y en a partout.
Hmm. Alors, vous avez un prénom, enfin un patronyme Auguste. Hein.
Oui.
Le jeu de mots est...
Oui. Et on a des auteurs.
Jean-Noël. Et alors, est-ce que vous êtes de la famille d'Auguste Escoffier, le grand Auguste Escoffier? Alors,
justement, je vais laisser le mystère là-dessus et je le dévoile dans le livre. Je le dis dans le livre. Et il se trouve qu'on a quand même des points communs avec Escoffier, puisque c'est un illustre, effectivement. Chef, et bon, on a le même éditeur déjà, on est tous les deux chez Flammarion. Bon, il a arrêté d'écrire dans les années 30.
Je vous souhaite de vendre autant de livres que lui.
Mais hein. Moi aussi.
Même une centaine d'années après, presque.
Et puis Escoffier a créé lui-même une boulette, ou en tout cas la première fois qu'on parle d'une boulette dans, dans son guide culinaire qui s'appelle le Kromeski. Alors, c'est un type de boulette un peu particulier, mmh. mais c'est dans le guide culinaire qu'on trouve le Kromeski,
ouais. Ouais, mais c'est très bon le Kromeski. D'ailleurs, il y a un restaurant qui s'appelle Kromeski à Paris. Exactement. Qui ne fait que des Kromeski et qui, voilà, encore un restaurant spécialisé dans la ouais. boulette.
Alors, tout pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Kromeski, Manu.
Alors, le Kromeski, c'est une boulette qui est panée et frite et qui est, comment dire, ça pourrait faire penser aux arancini italiens, sauf qu'il n'y a pas de riz dedans, c'est moelleux à l'intérieur et croustillant
c'est
à l'extérieur.
C'est même souvent coulant à l'intérieur.
Ouais, ouais, c'est je comparais ça, ouais, mais il va falloir que je définisse frito après. C'est comme des fritos, mais ronds. Voilà.
Et les fritos, donc?
Alors, les fritos, c'est une farce coulante, et puis, bon, c'est pané, et c'est frit. Ouais. Mais c'est en longueur.
Souvent, le Kromeski, en fait, c'est quelque chose qu'on congèle souvent l'appareil qui est à l'intérieur avant de faire frire. On l'enveloppe ensuite et à la cuisson, du coup, l'appareil fond et la coque le maintient à l'intérieur. Donc,
C'est la technique. C'est la technique pour que ouais. ça soit coulant à l'intérieur.
C'est exactement. Tout un art.
Et donc, ouais, l'appareil, art. Manu, c'est
l'appareil de. Bah, il y a de. L'appareil. C'est une. Je pense que ça doit être une espèce de béchamel. Souvent,
ouais, souvent, ouais. Ouais. C'est de la crème. Ouais. Ouais.
Essayez de me coller, Philippe, aujourd'hui.
Non. Il faut définir les mots pour ceux qui nous écoutent parce que ce sont des mots qui parfois bah pareil.
Alors une béchamel, c'est un temps pourtant de beurre et de farine.
Est-ce que tout le monde, regarde, l'émission est en public aujourd'hui, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un appareil?
Non.
Bah voilà. Bah, donc Manu.
Alors définissons appareil. Bah appareil, c'est le mélange de base d'une recette. Voilà. Par exemple pour un 4 quarts, l'appareil ça va être le mélange de beurre, farine, œuf et sucre. Voilà.
Alors souvent les boulettes ne s'appellent pas boulettes. Elles ont plein de noms. Sous quel nom est-ce qu'on les retrouve?
Alors justement, c'est le principe du livre. J'ai voulu, certes, il y a des boulettes de partout. Il y a les boulettes de nos grands-mères, effectivement, ou de nos mères. Mais en fait, ce que j'ai cherché, moi, c'était vraiment les boulettes qui avaient une identité, une histoire, et qui du coup s'affranchissent presque du nom de boulette. Enfin, le falafel, typiquement, on parle plutôt de falafel que de boulette. Voilà. Donc l'idée du livre, c'était ça, c'était de prendre des boulettes qui avaient vraiment une identité et qui étaient présentes soit sur un territoire donné avec une vraie identité forte. Par exemple, il y a le boulet de Liège sauce lapin, qui est une sorte de grosse boulette, ouais, qui est le plat de la ville de Liège, un peu comme.
Alors non, moi je crois que c'est son coup. Non.
On appelle les boulettes liégeoises.
C'est le chocolat liégeois, le plat de Liège.
Non, justement. Non.
C'est le boulet de Liège.
Vous avez fait une boulette,
c'est
Philippe.
Le boulet de Liège. Le chocolat liégeois, à la base, est un chocolat viennois.
Eh oui. Oui, absolument. Le chocolat viennois, c'est un chocolat chaud avec de la crème fouettée. Et ce qu'on appelle chocolat liégeois, c'est une version glacée, mais ça n'a rien de liégeois, en fait. Je ne pense pas que ce soit.
Exactement. En fait, non, mais l'histoire. Parce que moi aussi, quand j'ai vu la ville de Liège, j'ai tout de suite pensé au fait que c'était le chocolat liégeois, la recette emblématique de la ville. Et il se trouve que, concernant le chocolat liégeois, c'était avant des chocolats viennois. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires de la ville de Liège, en fait, ont réussi à repousser un petit peu les Allemands pour qu'ils arrivent un peu moins vite sur le territoire français. Et du coup, on a débaptisé tout un tas d'éléments qui étaient soit viennois, soit germaniques, en liégeois. Et du coup, le chocolat viennois est devenu le chocolat liégeois. Et la station, par exemple, de métro à Paris, qui s'appelle Liège, avant s'appelait Berlin, elle a été débaptisée pour rendre hommage aux vaillants combattants de la ville de Liège qui ont réussi à faire en sorte que les Allemands n'arrivent pas tout de suite en France.
Alors, on revient au boulet de Liège, sauce lapin.
Sauce lapin, hein, effectivement.
C'est quoi un boulet de Liège, hein, si on devait expliquer à ceux qui nous écoutent?
Le boulet de Liège, c'est une grosse boulette à base de viande, donc souvent un mélange de porc, de bœuf, éventuellement de veau. Et ça a une forme assez grosse, il y a un mélange donc de ces viandes avec de la mie de pain, etc. Et c'est dans une sauce qui est à base d'un ingrédient qui est typiquement liégeois, qui s'appelle le sirop de Liège, qui est un sirop très épais, très sucré, et qui est mélangé à du vinaigre, et ça fait en fait une sauce aigre-douce. Donc voilà, c'est plutôt. Et c'est vraiment très très typique de la ville de Liège. On en trouve assez peu ailleurs. En fait, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans un livre qui s'appelle Le petit traité de la boulette, qui est écrit par
Pierre-Brice Lebrun. Exactement. Absolument.
Et qui m'a fait l'honneur de faire la préface du livre.
Qui est très drôle, d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est même un peu surréaliste. Mais bon, c'est peut-être un Belge, c'est pour ça.
Non, mais
Pierre-Brice
est quelqu'un de... Alors, le livre, je ne sais pas s'il a été réédité, mais en tous les cas, justement, je voulais dire qu'en complément d'Autour du monde en 80 boulettes, c'était une bonne idée d'acheter aussi Le petit traité de la boulette. Je trouve que vos deux livres sont très complémentaires. Et puis, ça me permet de faire la promo pour mon ami Pierre-Brice Lebrun, que je connais depuis un peu longtemps.
Eh ben, très bien. Non, mais du coup, moi, j'ai eu l'honneur et la chance de le contacter. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la boulette, en fait. Je m'intéressais à la boulette, mais sans avoir vraiment de direction. Et quand j'ai découvert dans son livre Le boulet de Liège sous lapin, c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, il y a vraiment des boulettes emblématiques. Mmh. Et du coup, j'ai vu que, par exemple, en Lituanie, il y avait également le plat national, qui est une boulette, qui s'appelle un zeppelinai ou un zeppelin. Et de fil en aiguille, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux boulettes emblématiques de certaines régions du monde. Et du coup, j'ai collecté tout un tas d'informations et le livre est le fruit de...
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez collecté des informations, l'histoire des recettes, et vous avez essayé de restituer autant que faire se peut la recette authentique, parce que on n'est jamais sûr de rien.
Exactement. Alors, oui, mais il n'y a pas de lapin dans la sauce lapin.
Non,
c'est Ernest Lapin qui donne son nom à la sauce, c'est pas ça?
C'est même Madame Lapin.
Ah, c'est pas Ernest Lapin.
L'épouse de.
C'est l'épouse d'Ernest.
Lapin.
Ah bah voilà, vous voyez, comme quoi, il y a ceux qui lisent. Il y a ceux qui ont des vagues souvenirs et ceux qui bossent.
Alors bon, comme le chocolat liégeois n'est pas de Liège, la couille de Suisse n'est pas de Suisse.
Non, elle n'est pas de Suisse, la couille de Suisse, elle est de Belgique en fait.
Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve?
Non, mais c'est la boulette totem du livre, c'était sûr que ça allait intéresser les gens de parler de la couille de Suisse. et en fait, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure recette du livre.
Et vous expliquez qu'en fait, elles ne sont pas toutes bonnes?
Non. Effectivement.
Les boulettes dont vous...
Ah, le nom n'est pas super inspirant déjà, hein, la couille de Suisse.
Et la couille de Suisse, en fait, ça viendrait... Il y a plusieurs histoires qui peuvent témoigner de l'existence de la couille de Suisse. En fait, ça viendrait des Suisses d'église qui étaient en fait les gardiens des églises en Belgique. Alors, il y a les gardes suisses du Vatican qui sont vraiment armés, etc. Là, c'était plutôt des gens avec des albardes et des costumes qui faisaient un peu régner l'ordre dans les églises. Et alors, il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas très courageux, donc ils n'avaient pas beaucoup de couilles. D'accord. Et il y en a d'autres qui disaient que voilà, ils étaient un peu casse-couilles, parce qu'il devait faire régner l'ordre pendant les messes, et du coup...
Non, mais c'est intéressant de voir...
Mais j'ai jamais goûté cette recette, mais je subodore que la couille est molle, hein, d'après ce que vous nous dites.
Oui, c'est... Effectivement, mais c'est très simple, la couille de Suisse, hein, c'est de la farine avec de l'œuf, du beurre et un peu de levure, et du coup, comme ça cuit, c'est bouilli, c'est effectivement assez mou,
un peu mollasse,
et en fait, ça crée pas mal d'infractuosité sur la couille, on voit pourquoi ça s'appelle une couille de Suisse en l'occurrence.
Alors, on a commencé par les boulettes belges, je ne sais pas pourquoi, mais allons-y. On a cité deux types de boulettes.
Parce qu'on était par ordre alphabétique.
C'est ça,
mais... Alors, il nous manquait les arancini avant, Manu.
C'est ça, oui. Alors, non, mais on a parlé de deux types de boulettes belges, mais pas de celle qui me semble la plus emblématique, est quand même la croquette de crevette.
Si,
crevette grise.
Exactement, ouais, tout à fait.
Comme qu'on mange sur les plages d'Ostende.
D'Ostende et de Bruxelles.
Et à Bruxelles, dans les restaurants, près de la Grand Place. Ouais.
La croquette, c'est très très bon. Moi, j'en ai mangé sur place. Et du coup, c'est une béchamel qui est à l'intérieur. Ça pourrait ressembler presque à du cromeski. Hein,
oui, absolument.
Parce que c'est une béchamel avec des crevettes et une sauce tomate qui est prise dans un... Dans une boulette plutôt de forme oblongue, ça ressemble un peu à un cigare souvent, et voilà.
C'est de la crevette grise.
Ouais.
Voilà.
Ouais. C'est la meilleure d'ailleurs. On mange tout.
Et il y a un championnat de décortiquage de crevettes grises qui se passe à Dunkerque. Et c'est une Belge qui a été pendant très longtemps, je raconte ça dans le livre, qui a été très longtemps championne du monde de décortiquage.
Les championnats du monde pour tout, vous savez.
Oui.
Bon, en tout cas, vous avez de la chance. D'abord, le livre est magnifique. C'est un livre qui vous donne beaucoup, beaucoup d'idées. Parfois, on manque d'idées. Alors là, vous allez avoir plein de nouvelles idées.
Oui, complètement. Bon.
Et vous allez pouvoir le gagner, Manu.
C'est vrai, absolument.
Enfin, ça ne veut pas dire le gagner, Manu, vous.
Ah, pourquoi? J'ai pas le droit de jouer, moi.
Non. Bon, une fois, vous n'avez pas. Mais vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir gagner le livre.
Bon, bah oui, si vous voulez gagner le livre de notre invité Jean-Noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes, bah pour participer, vous vous rendez sur mon compte Instagram, donc Mariani, mariani.manuel, et vous vous laissez guider. Et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine.
Voilà. Évidemment. Et si vous voulez partager avec nous vos meilleures recettes de boulettes, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Émission 100% boulette aujourd'hui, Manu.
Absolument, avec notre invité Jean-Noël Escoffier, que nous recevons pour son livre Autour du monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. C'est aux éditions Flammarion. C'est un beau livre, hein, broché, 304 pages. Et qui ne coûte que 26 euros, donc allez-y, achetez-le.
Très peu cher.
Avec beaucoup de boulettes qu'on ne connaît pas en plus. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'idées. Mais est-ce qu'on a une définition précise de ce que c'est qu'une boulette ?
Alors, c'est vrai que souvent dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, on va dire, on a souvent l'idée qu'une boulette, c'est une boulette de viande qui est servie en sauce, etc. En fait, lorsqu'on s'intéresse un peu à la cuisine du monde, il faut laisser tomber tous ces préjugés, parce que ce que j'ai découvert, c'est que finalement, dans chacun des pays, en France, on a des mots très précis pour décrire les boulettes, on aime bien ça, on a une culture culinaire qui fait que, voilà, on distingue la boulette de la croquette, de la bouchée, du cromeski, etc. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Dans d'autres pays, on va avoir des mots qui concernent ou qui définissent une boulette, par exemple le dumpling en anglais, c'est une boulette qui est souvent à base de pâtes cuites.
Ouais, c'est souvent un dumpling, c'est souvent un ravioli en fait.
Oui,
ouais.
C'est souvent un ravioli, mais on peut, par exemple, ils considèrent que le gnocchi est un dumpling ou que la quenelle est un dumpling. Ouais. Et du coup, voilà, on commence à être un peu borderline sur les termes. Après, ils utilisent le mot meatballs pour les boulettes de viande.
Meatball, fishball, oui.
Fishball. Des fois, ils disent même fish meatballs parce que voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une définition. Autant la boulette est un aliment universel et sans doute, comme le disait Manuel, le plat le plus répandu au monde. Mais il n'y a pas une définition universelle de la boulette. En Inde, par exemple, on a des boulettes qu'on appelle koufté ou koufta,
oui,
qui viennent du terme kefta, etc., qui sont souvent des boulettes salées. Et puis on a ladou, qui sont souvent des boulettes sucrées. Voilà, c'est... Donc il n'y a pas de définition universelle de la boulette. Et moi, j'ai mis dedans tout ce que je considérais comme des boulettes, voilà, de mon point de vue.
C'est votre définition à vous de la boulette que vous intégrez.
Parce que par exemple, pour la Chine, vous mettez les shiomai, vous les appelez shiomai, mais... Bon, parce qu'il y a le mandarin, le cantonais, il y a plusieurs... ce qu'on appelle les siomai, c'est-à-dire les bouchers,
oui, hein,
qui peuvent être aux crevettes, au bœuf, au porc, etc. Ou même au poulet. Et donc, vous les mettez effectivement parmi les boulettes. Et
oui,
là, c'est typiquement un dumpling, justement,
oui,
ça, les siomai.
Oui, exactement.
Et c'est vrai que sur les cartes des restaurants chinois, plutôt cantonais, on le voit plutôt dans les raviolis. Donc,
dans les raviolis ou les dim sum. Ouais.
Est-ce qu'il y a un cousinage entre les raviolis et les boulettes?
Oui, pour moi, clairement. Enfin, je veux dire, souvent, pour faire un ravioli, on a une farce qui pourrait être une farce. S'il n'y avait pas de pâte, on mettrait de la... Voilà, on considérerait que c'est une boulette. Mais j'ai une vision très inclusive, hein, de la boulette. Pour moi, c'est un grand ensemble dans lequel rentrent plein de choses. Et sans doute des choses que des puristes pourraient considérer comme n'étant pas des boulettes dans ce livre. Mais je les ai mis parce que... soit leur histoire est incroyable, et c'est le but du livre, hein, de raconter.
C'est juste pour l'histoire, en fait. Ouais.
Voilà, donc c'est juste pour l'histoire. Soit parce que, en fait, je trouvais qu'elles avaient vraiment une forme de boulette, qu'elles sont excellentes, et que du coup, voilà, elles méritaient pour moi d'être dans le livre sous le terme boulette, qui est un terme un peu générique.
Alors, par exemple, si on prend le crab cake, c'est une recette qui s'inspire des Indiens.
Ouais,
d'une recette des Indiens.
Ouais.
Des Indiens d'Amérique.
Des Indiens d'Amérique,
ouais. Ouais, le crab cake, c'est une recette donc du Maryland, en fait, qui est un État américain, et qui s'inspirerait de recettes indiennes. Tout comme il y a des recettes brésiliennes aussi qui s'inspireraient
du cassoulet. De recettes toulousaines.
La feijoada.
Mais voilà, il y a pas mal de... on ne sait pas trop dater les boulettes. Il y a des boulettes qui sont très très anciennes dans le livre. Il y a une boulette notamment, qui est d'ailleurs une boulette qui n'est pas ronde, elle est en forme de pyramide, c'est la zongzi chinoise en fait.
Oui, avec le riz gluant, voilà, et les feuilles de bananier. Ouais.
Exactement, et on sait que cette boulette a été créée dans 400 avant Jésus-Christ, puisque ça correspondait à une période où en fait c'était pour rendre honneur à un poète qui s'était jeté dans un fleuve, etc. Et aujourd'hui cette boulette est emblématique d'un événement qui s'appelle la course des bateaux dragons, qui rend hommage à ce poète.
Et ce poète est mort en forme de pyramide et c'est censé représenter ces fameux bateaux.
Alors je sais pas trop, en fait c'était surtout parce qu'il s'est jeté dans un fleuve et pour éviter que les poissons mangent son corps, les habitants de la région où il était avaient jeté des petites boulettes de riz pour nourrir les poissons, et ils les enveloppaient dans des feuilles de
bananier.
De bananier. Mmh. Ouais, ouais. Tout à fait. Et ça, voilà. Ça, alors, on sait pas. Souvent, la boulette, ces histoires, ça tient un peu de la légende. Mais voilà. Donc, ça, c'est une boulette très ancienne. Les kébés syriens ou libanais sont également très anciens. Et puis, il y a des boulettes qui
sont. Alors, les kébés, on s'arrêtait un petit peu sur les kébés.
Oui, oui, oui.
On en parlait tout à l'heure avec Imam Abdelali Mamoun, qui était avec nous sur le.
Le roi de la boulette, lui aussi.
Alors, oui.
Pas le même genre de boulette, mais.
Manu, faites attention, vous êtes sur écoute. Hein. Je sais que l'imam écoute votre émission.
Mais il
n'y
a pas de souci, il peut nous appeler.
On ne va pas tout dire tout de suite.
Abdelali, tu nous appelles si tu veux.
Ça peut être cru le kébé.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une version du kébé qui est crue, qui n'a pas d'ailleurs la même forme que les autres. Il y a une version cuite, et puis il y a des versions végétariennes aussi, à base de boulgour et de potiron, donc qui sont purement végétariennes. Et il y a plusieurs. En fait, le kébé, c'est une boulette qui est un peu en forme d'ogive.
Bah, kébé, ça veut dire boulette, en fait, de toute façon. En arabe, hein, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est en forme d'ogive. C'est une enveloppe qui est faite à base de viande et de boulgour et qui est farcie elle-même avec de la viande, qui est souvent assaisonnée avec des épices, etc. Et il y a plusieurs versions qui existent. C'est délicieux.
Alors, si on revient en Chine deux minutes, vous avez aussi parler d'une boulette emblématique de la cuisine chinoise. Enfin, il n'y a pas de cuisine chinoise, il y a huit grandes régions, dont la région de Shanghai, ouais, où on trouve les fameuses têtes de lion. Ouais. Et ça, c'est toute une symbolique, hein, les têtes de lion.
Exactement, on les appelle têtes de lion d'ailleurs, parce que c'est des boulettes qui sont assez grasses, qui cuisent très longtemps, qu'on trouve des fois justement dans des feuilles de choux en train de nager dans un bouillon. Et en fait, à la cuisson, elles développent des petites bosses et oui, c'est censé ressembler
un peu. Ouais.
Voilà,
ouais.
Ça ressemble à l'arrière des statues de tête de lion qu'on retrouve de long du temple. Mmh. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ouais.
Vous avez vu comme c'est bien fait la cuisine shanghaïenne, Philippe ?
Je connais moins la cuisine chinoise que vous, Manu, en fait.
Ah bah.
Ouais, je mange d'abord très peu chinois.
C'est vrai.
Ouais.
En général, c'est moi qui vous traîne dans un restaurant.
Et les soupes de boulettes, d'ailleurs. Hein.
Oui, alors c'est vrai que en Chine, il y a beaucoup de boulettes de poisson, notamment dans les soupes. Hein, en Asie du Sud-Est aussi. Hein, Vietnam, en Thaïlande.
Les pempek, notamment.
Ouais. Et alors, la boulette, parce que vous avez essayé de dater la boulette, en fait, moi, je pense que la boulette existe depuis qu'on a mangé avec les mains. Parce que quand on a. Au départ, on n'avait pas d'assiette, on n'avait pas de couvert. Donc, on attrapait les aliments avec la main et pour pouvoir les manger facilement. Regardez, quand on mange le couscous au Maghreb et qu'on le mange à la main, on fait des boulettes avec la graine de couscous, avec les légumes, la viande. On en fait des boulettes dans sa main et on les mange. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a commencé à se nourrir avec les mains, quand on n'avait pas de couvert, pas d'assiette, je pense que déjà là, il y avait des boulettes. Je pense que la boulette est arrivée
naturellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Asie, on mange beaucoup de boulettes aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas de couteau. Enfin, on mange avec des baguettes, donc soit c'est des petits morceaux, soit ça peut être des boulettes.
D'ailleurs, il y a un très bon plat algérien de boulettes de semoule, Manu.
Ouais. Ah, absolument, oui. Ouais. Un plat kabyle. Oui. Délicieux qui s'appelle
Berkoukes.
Mais il y a un autre nom aussi.
Oui, je crois qu'il y a un autre nom. Lasban, non ?
Lasban.
Lasban, absolument. Lasban, ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, le Lasban.
On parlait des boulettes indonésiennes. Alors là, c'est bakso. Hein.
Oui.
Mais qui sont, elles, pour le coup, sont des boulettes qui sont fouées à la viande. Hein.
Alors les bakso, oui, en fait, c'est des boulettes où la viande est hachée très très fine avec de la farine de sagou.
Ouais, elle est plus mixée que hachée, là, d'ailleurs. Elle ouais, est, je elle crois est qu'elle est écrasée
très,
au mortier.
Très mixée. Ouais. Et en fait, on forme les boulettes en pressant de la farce dans sa main. Et en fait, ça fait sortir du coup des petites boules qu'on fait cuire dans les bouillons. Et ensuite, voilà, il y a plein de formes de ces boulettes qui sont originaires de l'île de Java, d'ailleurs, je crois.
C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, de parler de boulettes, mais c'est à la fois simple et ça ne l'est pas à faire.
Alors, effectivement, souvent, c'est jamais très très compliqué de faire les boulettes. Par contre, ça peut être extrêmement consommateur de temps dans le cadre de certaines boulettes, puisqu'il y a des boulettes qui font partie soit de la cuisine populaire, avec des repas relativement frugaux. Et puis, il y a des boulettes qu'on mange uniquement dans des grandes occasions où, tout le monde prépare les boulettes le matin pour faire un grand repas. Et là, souvent, ça prend pas mal de temps. Je sais qu'il y a une recette de boulettes que j'adore faire, c'est les mantis arméniens. Mm-hmm. Et du coup, les mantis arméniens, voilà, c'est des boulettes qu'on va déposer ensuite dans un ravioli, mais qui n'est pas fermé. Ça se fait dans des grands plats qui s'appellent des tepsis. Et donc, pour remplir le tepsi, il faut facilement 2h30 à 3h. Et généralement, c'était les familles qui faisaient ça le matin, tous ensemble, préparer ces boulettes. On retrouve cette recette d'ailleurs en Turquie ou dans.
Oui, c'est pas une recette pour working girl, maman de trois enfants.
Non, tout à fait. Après, je rassure tout le monde, il y a aussi des boulettes qu'on peut préparer très très rapidement dans ce livre.
Oui, c'est vrai que c'est aussi l'occasion. On a fait beaucoup de d'émissions sur la cuisine anti-gaspi. La boulette, c'est aussi économiquement parlant super intéressant, ouais. Parce qu'on ouvre son frigo, on regarde tous les trucs qui sont un petit peu en fin de vie, en fin de course. Et à partir de votre livre, on peut avoir plein
d'idées.
On peut pimper un peu vos recettes pour les adapter à son, ouais. à son frigo, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'essaye de donner les recettes effectivement les plus proches de
la tradie, de l'origine.
La tradie ou de l'origine, mmh. Lorsque c'est possible. Il y a certaines recettes qui ont une AOP, même, etc. Donc, on connaît vraiment précisément la recette. Mais c'est vrai qu'on peut faire des boulettes avec à peu près tout. Et comme vous le dites, c'est pas forcément très cher, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs morceaux de viande pour le faire. Alors, ceci dit, souvent, c'est quand même rarement fait avec des viandes, des restes de viande. Souvent, c'est quand même de la viande fraîche que l'on met à l'intérieur. Il y a une recette de boulettes qui est hollandaise. Et du coup, c'est de la viande qui est déjà pré-cuite, etc. Mais c'est assez rare, finalement. C'est souvent de la viande fraîche que l'on met à l'intérieur.
Oui, et on cuit ensuite
la boulette avec la viande fraîche.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que quand on fait des boulettes avec de la viande déjà cuite, souvent, ça a tendance à être un petit peu sec.
Ouais.
C'est pour ça qu'on met souvent un petit peu de riz, un peu de mie de pain. Voilà, ça permet aussi de recycler les restes de riz, les restes de pain.
Tout à fait.
Donc, c'est magique, quoi.
En termes de proportion, d'ailleurs, souvent, on dit que voilà, faut un tiers de viande, un tiers de mie de pain et un tiers d'herbe ou d'épices, par exemple, en termes de volume.
Bien, eh bien, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez aujourd'hui, gagner ce livre, hein, Manu.
Absolument. Pour gagner le livre de notre invité Jean-Noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes, vous vous rendez sur mon compte Instagram, mariani.manuel, mariani.manuel, comme ça se prononce, et vous vous laissez guider, et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine par notre huissier de justesse, Maître Bouali.
Oui, qui lui aussi aime beaucoup les boulettes. Mais alors, pour le coup, c'est pas les mêmes, hein. On en reparlera plus tard. Si vous aussi, vous pouvez partagez vos recettes de boulettes avec nous au standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, et on parle de boulettes ce matin, Manu.
Eh oui, absolument, Philippe.
Dans tous les états.
Et on n'en parle pas entre nous, puisqu'on en parle avec Jean-Noël Escoffier, l'auteur du livre Autour du monde en 80 boulettes. Paru aux éditions Flammarion. Un très beau livre que nous vous recommandons, que vous recommandez aussi, Jean-Noël, hein, je pense.
Oui, voilà. sans retenue.
Voilà, avec une préface de Pierre-Brice Lebrun, auteur du petit traité de la boulette. Et alors, dans la préface qu'il vous a écrit, la première phrase, c'est « La boulette n'est pas un aliment ». Alors, est-ce que Pierre-Brice Lebrun vous a expliqué? Parce que c'est vrai qu'il a des, comment dire, il a des sentences parfois un petit peu tortueuses.
Non, non, il dit que c'est pas un aliment, c'est pas une préparation, en fait, que la boulette, elle se suffit à elle-même et qu'elle dépasse ce cadre-là. Mais c'est un vrai amoureux de la boulette, donc il y a plein de choses à dire dessus. Il dit que la boulette est apolitique, etc.
Bah, il va même jusqu'à affirmer que si la Terre est ronde, c'est parce qu'elle a copié la boulette. Hein.
Exactement, oui, tout à fait. C'est un vrai passionné.
Ça va loin.
Même si on le voit dans votre livre, la boulette n'est pas toujours ronde.
Non, elle est pas toujours ronde. Elle est parfois, donc, comme je disais tout à l'heure, pyramidale pour la forme la plus bizarre, on va dire, pour une boulette. Elle est souvent aplatie. Elle est parfois en forme de cigare, etc. Bon, voilà.
Alors justement, si on vous demandait en une ou deux phrases la définition de la boulette, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Alors, je donne ma définition dans le livre. Je ne l'ai plus exactement, mais grosso modo, c'est des ingrédients qu'on amalgame et qu'on malaxe ensemble pour former en fait un tout. Et elles peuvent être salées, sucrées, mangées froides, chaudes. Donc, c'est quelque chose de très très générique pour moi. Voilà. À partir du moment où on prend plusieurs ingrédients et qu'on les met ensemble,
on les amalgame.
On peut faire une boulette à partir de ça. Il n'y a pas vraiment de définition. Le Larousse, par exemple, dit une boulette, je ne sais plus quelle est sa définition, mais il donne un exemple, une boulette de mie de pain. Donc, il prend de la mie de pain et on peut former une boulette. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de définition de boulette universelle, quoi.
Bon, oui, chacun sa boulette.
Chacun sa boulette, effectivement.
Alors, si cet après-midi, vous allez chez IKEA, vous pourrez trouver des boulettes.
Ouais.
Ils vendent des boulettes chez IKEA ?
C'est la meilleure vente du self-IKEA.
C'est non seulement la meilleure vente du self-IKEA, mais en fait, le plus grand vendeur de boulettes au monde est IKEA. Ils en écoulent plus d'un milliard par an. Et du coup, voilà, c'est la boulette suédoise par
excellence.
Par excellence.
Ouais.
Et il y a quelques...
Code Boulard.
Voilà, exactement.
Ouais.
Code Boulard.
Code Boulard, ouais.
Et voilà, ça fait partie des plats emblématiques. Et ce qui est intéressant dans le cheminement de cette boulette, c'est que c'est une boulette qui a été ramenée de l'Empire ottoman par un des rois de Suède qui était en exil à cette période là-bas. Il est revenu en Suède, il a ramené la boulette, le chou farci et le café. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est ça qui est bien avec les boulettes, c'est que finalement cette boulette s'est adaptée localement pour devenir le plat emblématique d'un pays, alors qu'au départ, elle ne vient pas du tout de ce pays. Donc ils ont mis de la viande de porc à l'intérieur, mais ils ont aussi mis de la confiture d'érelle, ils la servent avec du concombre qui est dans une sauce aigre douce, etc., avec de la purée. Donc voilà,
c'est une sauce aujourd'hui très nappante. Hein.
Exactement, et une sauce brune, voilà, qu'on retrouve dans la cuisine russe notamment ou nordique.
Alors ces boulettes chez IKEA, on peut les manger sur place, mais on peut même les acheter pour les ramener à la maison. Hein. Ouais. Ça marchait tellement bien qu'on peut repartir avec sa table basse en kit et ses boulettes.
Ouais. Hein. Ils ont même fait quelque chose dans le confinement qui était assez drôle, IKEA. C'est qu'ils ont, comme les notices de montage de meubles, comme les personnes ne pouvaient pas venir chez IKEA pour acheter des boulettes notamment, ou les manger à la cafétéria, ils ont fait une notice pour faire soi-même sa boulette et ils ont donné leur recette de boulettes dans cette notice.
Ouais, ils sont forts ces Suédois quand même.
Vous l'avez déjà goûté, Manu ?
Les boulettes d'IKEA ?
Ouais.
Absolument.
Bon.
Ah bah vous savez, je suis curieux moi.
Et alors ?
Quand il y a de la boulette quelque part...
Est-ce qu'elles valent leur succès ?
Écoutez, je préfère faire des boulettes à la maison quand même. Hein ? Non. Enfin, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est quand même... c'est un peu industriel, quoi. Même si c'est sauce très... comment dire, très comfort food, hein, parce que la sauce, cette sauce brune là, elle est épaisse, elle est hyper assaisonnée. Hein, je la soupçonne même d'avoir vu la consistance un petit peu de sel de glutamate dedans pour l'épaissir et lui donner ce côté un peu umami, vous voyez. Donc bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais bon, c'est amusant, quoi. C'est amusant. Mais si vous voulez faire les vraies boulettes suédoises et pas industrielles, vous prenez la recette dans le livre de Jean-Noël Escoffier et puis vous faites vos boulettes IKEA maison.
Alors, les acras, ce sont des boulettes ?
Moi, je considère que c'est des boulettes, oui.
C'est pas des petits beignets ?
Il y a parfois des beignets qui peuvent être des boulettes, de mon point de vue.
Oui, ça peut être...
fait partie.
Oui, parce que les kébés, par exemple, c'est une forme de beignet, mais c'est des boulettes quand même.
Oui, tout à fait.
Donc les acras, pour vous, ça rentre dans la famille. Exactement. Des ouais. boulettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, alors la poutine. Moi, je pensais que la poutine, par exemple, je pensais que c'était un plat avec du fromage, des frites canadiens.
Oui, alors effectivement, la première recette du livre est une poutine à trous. En fait, c'est une recette sucrée qui ressemble plus d'ailleurs à un chausson, soyons honnêtes, qu'à une boulette. Mais c'est voilà, c'est un gâteau qui est fait en forme de boule et à l'intérieur duquel il y a des fruits rouges qu'on va mixer, mélanger, etc. Et voilà. Et donc ça s'appelle une poutine à trous. C'est une recette du Canada. Poutine, ça veut dire, ça vient de pudding en fait, à la base. Et du coup, c'est quand on mélange plein de choses ensemble, on obtient une poutine. Donc c'est pour ça qu'il y a le plat qui n'est pas dans mon livre, mais qui est la poutine qu'on connaît avec
plat des frites, emblématique, voilà,
du jus de viande. Voilà, la poutine à trous et une autre boulette. Et il y a un autre type de poutine salée qui est plutôt à base de pommes de terre et qui est elle une boulette.
Qu'est-ce que la kefta doit à Hassan Pasha?
Hassan Pasha.
Qu'est-ce qu'il lui a apporté?
Était le. Je ne sais plus comment on appelle ça.
Calife ou.
Une sorte de calife d'Alger, en fait, pendant très longtemps.
Et. Hassan Pasha devait être Pacha, je pense.
Non oui, c'est possible.
C'est un titre, Pacha.
Il était, je crois, d'origine turque, mais il était basé à Alger. Il y avait trois villes-états en Afrique du Nord. Dont Alger, Tripoli et Tunis, je crois. Et en fait, il y a une boulette qui porte le nom de Kefta Hassan Pasha, qui est une boulette assez simple à faire. On la cuit au four, c'est de la viande hachée. Et en fait, on a un petit turban de purée que l'on met dessus. On peut remplacer ça assez facilement par des pommes... des pommes duchesses que l'on pose en fait directement sur la boulette de viande et on cuit ça au four et c'est délicieux.
La kefta Hassan Pasha, la recette est dans le livre également. Toujours au Maghreb, alors la cheptia qui est une boulette, elle tunisienne.
Oui, c'est une boulette tunisienne. La recette m'a été donnée par André Zanamura.
La reine de couscous au mie de pain.
Exactement.
À la mie de pain, ouais.
Et du coup, on s'était rencontrés dans un championnat du monde de boulettes qui s'appelait le Super Bowl.
Le Super Bowls.
Et ça, c'est pas mal. Elle était jurée dans cet événement et on avait discuté boulettes justement parce qu'elle est fan. Elle a elle-même écrit un livre qui s'appelle Les boulettes, 10 façons de les préparer. Et du coup, voilà, c'est une recette qu'elle a connue puisqu'elle est d'origine tunisienne. Et du coup, voilà, c'est une recette qui peut être végétarienne, qui est avec beaucoup, beaucoup d'herbes et notamment de l'aneth. Et c'est une boulette très, très parfumée avec assez peu de viande, un peu de riz. Et c'est très, très bon.
Et puis, peut-être les boulettes les plus célèbres du monde, ce sont les falafels.
Les falafels,
c'est pas le sandwich, hein, falafel.
Non. Ah non, ah ben surtout pas. Surtout pas. Ouais. Excusez-moi, je vous ai...
Non, mais c'est des falafels à base de pois chiches.
L'ancêtre de la boulette végane.
Oui, tout à fait. C'est finalement la boulette végane par excellence, ouais. Avec de la fève, souvent, d'ailleurs.
On pense souvent que c'est du pois chiche, mais les vrais falafels à la base sont faits avec des fèves sèches, qu'on réhydrate et qu'on mixe. Et on fait les falafels comme ça. C'est pour ça que les vrais falafels normalement sont plutôt verts à l'intérieur. Ils sont pas grisâtres. Mais effectivement, comme vous le dites, Philippe, le falafel, c'est la boulette
et pas le sandwich.
Hein, voilà. Quand on dit je vais manger un falafel, non, on devrait dire une pita falafel. Voilà. Une pita shawarma ou une pita, kefta, et voilà.
L'intérêt des boulettes, c'est qu'on peut les préparer à l'avance, en fait, finalement.
Ouais.
Je pense même qu'il faut les préparer à l'avance, parce que comme ça prend quand même du temps, et que ça permet aussi de passer un peu tous ces restes quand on fait ça de façon pratique et économique, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en faire... à en faire des tonnes et à stocker ça. Donc en plus ça se range bien, les boulettes, hein. dans des petites boîtes, hein, ça c'est pratique.
Exactement.
Bien, vous allez pouvoir gagner ce livre, hein, le livre de notre invité, Manu.
Absolument, pour gagner le livre de Jean-Noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes, vous allez sur mon compte Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L, et vous vous laissez guider. Et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine.
Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Hein. Il y a les classiques, mais vous sentez beaucoup des sentiers battus, donc Manu.
Oui, et puis comme on a l'auteur avec nous, évidemment, on vous fera dédicacer le livre.
Avec plaisir.
Eh oui.
Merci d'avoir été avec nous. Depuis Lyon, Jean-Noël, vous êtes venu nous rejoindre ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast et on vous retrouve samedi prochain.
Absolument, pour de nouvelles aventures.
Un bon week-end sur Beurre FM.
Merci.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.